Cousin Lou vient pour le nouvel an. À la foire du temple du Cheval Blanc, égarés dans la foule, ayant perdu nos amis, nous nous retrouvons seuls. Il me supplie de marcher moins vite et me prend la main. Je la retire avec dégoût. « Que penses-tu de ma lettre ? L'as-tu lue ? » insiste-t-il. Je ris méchamment. « Je l'ai déchirée !» Je lui tourne le dos. Il se jette sur moi et m'étouffe dans ses bras. « Écoute-moi !» Je le repousse. « Cousin Lou, jouons une partie de go. Si tu gagnes, j'accepte toutes tes propositions. Si tu perds, nous ne nous verrons plus. » La partie commence à l'aube, dans un coin du salon avant le lever du jour. Lou n'a pas dormi de la nuit. Les yeux injectés de sang, les cheveux en désordre, il avale tasse de thé sur tasse de thé pour se tenir éveillé et pousse de gros soupirs. À midi, tambours, trompettes et pétards font trembler la terre. Lou se bouche les oreilles. Cette musique populaire, au lieu de me perturber, aiguise ma concentration. La lumière d'hiver colorée par la gaieté de la rue joue sur le damier. Après le déjeuner, mon cousin se perd dans de vagues méditations. Il essuie quelques larmes égarées au coin de ses yeux. Un silence, pareil à un plat de nouilles froides et sans sel, se répand sur le damier. Troublé, mon cousin appuie sa tête sur sa main et ne cesse de soupirer. Il commet une erreur vers les 19h. Dans la soirée, sans attendre la fin de notre partie, je lui fais remarquer qu'il a déjà perdu, qu'il faut tenir notre pari. Il repousse sa chaise et se lève. Le lendemain matin, on m'informe de son départ. Son train est à 9h, j'ai le temps de le rattraper. À la gare, il attend que je lui exprime des remords. Il peut toujours espérer, je n'irai pas le supplier. Cela encouragerait sa bêtise. Il m'a offensé, il doit se soumettre à la pénitence. Plus tard, je lui écrirai. Je le rappellerai à moi lorsque ses désirs impurs auront cédé la place à l'humilité du vaincu. 10 jours plus tard, je reçois une lettre de Lou. Il me dit qu'il a obtenu un passeport pour les terres intérieures et qu'au moment où je le lirai, il sera parti pour Pékin. En déchiffrant ces mots, j'éprouve un étrange chagrin. Je me remplace des mille vents où les joueurs de go imperturbables s'adonnent à leur passion. Petite fille, je suivais mon cousin partout où il jouait. Une fois, dévoré par la fièvre, il tomba évanoui sur le damier. Je gagnais le tournoi à sa place. Cette victoire fit de moi l'unique femme admise dans le cercle fermé des amateurs. Lou ne m'a pas comprise. Il désire que je le rejoigne dans le monde des adultes, sans savoir que ce monde-là, triste et vaniteux, m'effraie. Collège des filles, je m'ennuie. L'éducation nationale forme des précieuses ridicules et mes compagnes seront un jour de parfaites femmes du monde. Wong, la plus jolie d'entre elles, a des sourcils épilés si soigneusement qu'ils forment au-dessus de ses yeux deux croissants de lune. Elle les fronce, les plisse, les détend. Sa joie feinte, ses rires maniérés ne sauraient cacher le mal-être de la puberté. Zhu, la plus laide, possède pourtant la plus longue chevelure de la classe. L'ingratitude de son visage lui permet de s'exprimer avec mépris et aigreur. C'est là son charme. Entre deux leçons, les filles parlent des stars de cinéma, de robes, de bijoux, du mariage, des liaisons secrètes de l'impératrice. Personne ne lit la nouvelle littérature et ses critiques vénéneuses d'une société pourrie. Personne n'évoque l'actualité politique de jour en jour plus affligeante. D'une main à l'autre, passent des romans d'amour qui tirent des larmes faciles. La Mandchourie indépendante nous isole du reste de la Chine. C'est une usine de douceur où les vers à soie tissent leurs cocons délicats avant d'expirer dans un bain bouillant. Après la classe, je me rends sur la place des Mille Vents. Le jeu de go me propulse vers un univers de mouvement. Les figures sans cesse renouvelées me font oublier la platitude du quotidien. À l'école, les filles me surnomment l'étrangère. Elles considèrent ma passion pour le go comme une folie exotique. Les joueurs, eux, préfèrent l'indulgence qui les honore et tolèrent l'extravagance d'une gamine. Il y a 20 ans, après son mariage, père convainquit grand-père de l'envoyer étudier en Angleterre. Un an plus tard, à son retour, père, occidentalisé, défia la tradition. il confia ma sœur, Perle de Lune, aux soins de sa mère et entraîna son épouse dans ses tribulations vers l'ouest. Le scandale se répandit à Pékin où vivaient les deux familles. Grand-père maternel, un dignitaire retiré de la cour, rompit avec grand-père paternel, qui y occupait encore une fonction honorable. Je suis née dans la brume londonienne. Le mal de cette naissance déplacée se manifesta aussitôt dans les caprices de mon âme dérangée. De cette prime enfance, il ne me reste hélas aucun souvenir. Après l'effondrement de l'Empire, les deux vieillards se réconcilièrent, unis par leur haine des Républicains. Ils moururent presque en même temps. Revenus pour porter le deuil, mes parents obéirent à l'ordre de ma grand-mère et nous quittâmes Pékin, cette ville où mes ancêtres avaient bâti leur demeure de chasse. Les Japonais nous assiégèrent. Le pilonnage dura 3 jours. L'armée chinoise capitula. On ne revit plus ses soldats. Les rumeurs disent que 3000 hommes furent fusillés à l'extérieur de la ville. L'inflation nous avait appauvris. Mère renvoya ses femmes de chambre et ne garda que la cuisinière et une femme de ménage. L'aristocratie ruinée fut remplacée par de nouveaux riches qui apportèrent à la ville une gaieté pompeuse. Des hôtels, des magasins de luxe, des restaurants élégants s'ouvrirent. Jamais nos avenues n'avaient été aussi prospères. Mes parents trouvèrent chacun un moyen de fuir la réalité. Père s'acharna à rédiger une anthologie de la poésie anglaise. Mère s'occupa à recopier son manuscrit, calligraphiant soigneusement ses mots trop rapides. Mère a scellé ses souvenirs d'outre-mer dans un coffre. Je profite de son absence pour en voler la clé cachée dans un vase. Des photos, des vêtements, des lettres, des tissus imprimés aux dessins extraordinaires exhalent une odeur envoûtante. Ni musc, ni cèdre, ni santal, ni fleurs de nos jardins, arbres de nos villes. Ce parfum me plonge dans un autre monde. Rêver accroît ma mélancolie.